La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, dialogue de Maritain avec personne. Cette fois-ci, il s'agit du chapitre 10, l'homme. Chapitre 10 de la philosophie bergsonienne. Nous sommes dans le centre de gravité de cette œuvre majeure qui a fait connaître en 1913 Maritain sur la scène philosophique en tant que philosophe néo-thomiste, même s'il refusera ce titre. Dans ce chapitre 10, il s'agit de critiquer la démarche de Bergson. Quelle est-elle? Elle est de s'opposer au parallélisme. Qu'est-ce que le parallélisme? Eh bien, c'est de concevoir l'âme et le corps séparés de manière parallèle. D'où vient cet héritage de parallélisme? Il vient de Descartes. Maritain donc rappelle, au début de ce chapitre l'homme, dans une première sous-partie, l'âme et le corps dans la théorie bergsonienne, il rappelle l'héritage cartésien et voici comment il le résume. Après que Descartes eut fait de l'âme et du corps deux substances complètes, deux choses existant chacune en soi et pour soi, et définies la première par la pensée, la seconde par l'étendue, la nature humaine devint tout à fait incompréhensible aux philosophes. Soyons vigilants au lexique. Vous avez remarqué, l'âme et le corps sont deux substances complètes. Il faudra revenir sur le thème de substance, ce que fera Maritain en proposant la lecture thomiste de la substance. La substance est ici réduite à une chose. Donc deux substances complètes deviennent deux choses existant chacune en soi et pour soi. Donc parallélisme total est défini, la première par la pensée, la seconde par l'étendue. La conséquence de cette répartition duelle, c'est que la nature humaine est incompréhensible. Pourquoi? Parce que le mot de nature, homme, suppose l'union de l'âme et du corps. Alors vous avez dans la sixième méditation de Descartes une réflexion sur cette union de l'âme et du corps, ainsi que dans plusieurs lettres. Il dit notamment dans cette sixième méditation qu'il ne peut être comme un capitaine dans son navire, il ne peut être dans son corps, et que on forme un tout, que l'âme et le corps, il sent bien, forment un tout. Il n'en reste pas moins que le dualisme reste une façon une dominante de la pensée de Descartes, de penser l'âme et le corps. Et Maritain continue. Comment deux substances existant chacune pour soi peuvent-elles concourir à former un seul et même être, une seule et même nature? Comment la substance pensante pourrait-elle agir sur la substance étendue, sinon du dehors, en la mouvant, ce qui crée entre elles une union purement accidentelle? Comment, surtout, la substance étendue pourrait-elle agir sur la substance pensante? Avec Descartes, ou depuis Descartes, on en vint à attribuer au corps seul, à la substance étendue donc, tous les phénomènes physiologiques, et à l'âme seule, à la pensée donc, tous les phénomènes psychologiques, sensations, émotions, etc., aussi bien qu'opérations intellectuelles et volontaires. Par là, on donnait beau jeu aux matérialistes, mais en même temps, on ouvrait la porte à l'idéalisme et au subjectivisme, la perception n'étant plus qu'une modification de l'âme ou de la pensée et ne nous faisant connaître que des états de notre conscience. Je m'arrête sur la fin de ce grand résumé, cette synthèse, sur le rôle de la perception. La perception n'étant plus qu'une modification de l'âme ou de la pensée et ne nous faisant connaître que. Le connaître que, qui aboutit à des états de conscience, fait qu'on a limité la connaissance et qu'on a rendu la métaphysique impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de connaissance que par les sens. Et les sens connaissent déjà de manière intentionnelle. C'est-à-dire que le sens devient déjà la matière qu'il connaît. Mais de manière intentionnelle, l'intentionnalité n'est pas uniquement dans l'esprit, dans l'intelligence, elle est déjà dans le sens. Et c'est ce qui fait la possibilité de la connaissance, et c'est ce qui fait l'unité, ce qu'on appelle l'organicité de la connaissance, et qui permet la métaphysique. J'y reviendrai la semaine prochaine. Pour l'instant, voyons comment Bergson va s'opposer à cet héritage cartésien qu'on appelle le parallélisme. Je vous donne la formule maritainienne. C'est cette solution issue d'une métaphysique toute a priori qui passa à l'état de postulat scientifique et sous le nom de parallélisme psycho-physiologique dans l'esprit de la plupart des psychologues qui se posaient le plus en adversaire et en contempteur de l'a priorisme métaphysique. Les progrès de la science, notamment de la physiologie nerveuse et de la pathologie mentale et la théorie des localisations cérébrales, avaient confirmé ce que le bon sens avait toujours constaté, à savoir la dépendance étroite, l'union intime des fonctions physiologiques et des fonctions psychologiques. On n'en concluait pas, comme le faisaient les scolastiques, en premier lieu, que les facultés sensitives sont des facultés organiques et par conséquent localisées, des facultés de l'âme et du corps prises ensemble, et en second lieu, que l'intelligence et la volonté, bien que purement spirituelles et par suite sans organes corporels, reçoivent le contre-coup des perturbations corporelles et cérébrales à cause des facultés sensitives et organiques qui sont la condition et le moyen de leur exercice. Mais comme on avait résolu de bannir de la science tout vestige de métaphysique, et surtout l'idée de faculté et celle de substance, on admettait que les événements ou phénomènes corporels, d'un côté, les événements ou phénomènes de conscience, de l'autre côté, formaient chacun une série, se suffisant de telle sorte que ces deux séries se correspondaient terme à terme, élément à élément, et pouvaient être regardées comme la traduction du même texte en deux langues différentes. Traduction du même texte, c'est la théorie du parallélisme qui met en parallèle justement la psyché, l'âme et le corps, malgré une prépondérance finalement de la neurologie ou de la physiologie. On pense par exemple aux résultats des guerres napoléoniennes ou même de la guerre de sécession aux États-Unis, où on a sur les cahiers de bord des médecins, il est mort de nostalgie. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est la maladie du retour chez soi, est considérée comme facteur de mort des soldats dans les guerres napoléoniennes, éloignés de leur patrie, ou pendant la guerre de sécession américaine. Autrement dit, on avait déjà un travail scientifique et médical qui montrait l'interaction du corps et de la psyché, mais malgré cette avancée, il y avait l'autre héritage, dit brièvement de Descartes, en fonction de ce dualisme âme-corps, et qui cautionnait la théorie du parallélisme, c'est-à-dire deux entités qui traduisent différemment et parallèlement un même texte. Bergson va s'opposer à cet héritage, et Maritain en souligne la belle initiative, mais c'est resté à l'état d'intention et non de fait. Pourquoi ? À cause de sa méthode. M. Bergson ne s'est pas seulement attaqué au parallélisme d'une façon purement dialectique, et en essayant de montrer que quelque langage qu'on emploie, idéaliste ou réaliste, le parallélisme implique contradiction. Il s'est aussi efforcé de réfuter, sur le terrain de l'expérience, et c'est là l'objet essentiel, semble-t-il, de son livre « Matière et mémoire », où il s'est donné pour but de préciser autant que possible, par la seule étude objective des faits, la nature de la relation psycho-physique. Notons tout de suite au sujet de la méthode employée que les scolastiques ne sauraient trop approuver M. Bergson de vouloir établir sa philosophie de la nature humaine sur les faits, perceptions immédiates de la conscience ou données de l'observation, encore que le bergsonisme, dans d'autres domaines, dénie aux faits toute objectivité véritable et ne fasse d'eux qu'une invention du savant ou un découpage artificiel. La métaphysique, comme toute science du réel, n'est rien si elle ne s'appuie sur l'observation et sur l'expérience. Réjouissons-nous, Maritain salue la méthode bergsonienne, la méthode de l'expérience, qui est aussi la méthode de la métaphysique, de l'homo sapiens. Mais il va y avoir divergence. Sur quoi porte la divergence ? La divergence va porter sur la théorie de la matière et la théorie de l'esprit. Et là, il faut rentrer dans matière et mémoire. Maritain nous y invite et nous allons le suivre, c'est notre fil directeur. Que dit matière et mémoire ? La relation de l'activité cérébrale à l'activité mentale, des phénomènes corporels aux phénomènes psychologiques, n'apparaît point à M. Bergson comme cette relation d'une série à une autre série, à un autre tout équivalent, ou d'un texte à sa traduction, imaginée par le parallélisme. Mais, pour M. Bergson, le phénomène cérébral est avec le phénomène mental dans une relation sui generis, qu'on pourrait appeler relation de la partie au tout, ou comparée à la relation d'un cadre aux divers tableaux qu'on peut y placer. Le cadre, à coup sûr, du fait qu'il a telle forme et telle dimension, élimine par là même une grande quantité de tableaux. Mais plusieurs tableaux différents peuvent néanmoins entrer dans ce cadre. Et c'est en vain qu'on chercherait dans le cadre la détermination ou l'équivalent du contenu du tableau. De même, l'activité cérébrale dessine à chaque instant le cadre où l'activité mentale pourra s'insérer, mais ne détermine nullement le contenu de cette activité. Dans le fonctionnement des facultés sensitives ou organiques, il est bien vrai, pour la philosophie scolastique, que le phénomène physique observable dans le cerveau n'est en aucune manière l'équivalent du phénomène psychique, pour cette bonne raison que l'opération propre de l'organe, comme celle de la faculté, c'est le phénomène psychique, non le phénomène physique, qui n'en est qu'une condition ou un accompagnement. Mais M. Bergson donne de ce fait, comme nous venons de le voir, une interprétation toute différente, puisqu'il fait du phénomène physique, comme tel, l'opération propre de l'organe, constituant le cadre où le phénomène psychique, dès lors tout inorganique, se produira. Cette relation de cadre à tableau convient sans doute au rapport de la sensation présente et de l'action commencée aux images interprétatives fournies par la mémoire, c'est-à-dire au rapport entre deux phénomènes également psychiques et également organiques. M. Bergson l'applique à la relation des centres cérébraux à la mémoire et il pense avoir ainsi mis la main sur le point de jonction entre l'esprit et la matière, entre l'âme et le corps. Il pense voir ainsi couler l'un dans l'autre l'esprit et la matière et assister à leur union. C'est ici une image très parlante que prend Maritain pour décrire la confusion bergsonienne, l'image du cadre et du tableau. Elle est parlante parce qu'au fond, elle rejoint une problématique très contemporaine. Nous sommes 110 ans après la philosophie bergsonienne, publiée en 1913, nous sommes en 2023, et 110 ans après, nous sommes dans les mêmes problématiques avec les neurosciences, avec la problématique du transhumanisme. Et c'est exactement cette confusion entre l'organe, la faculté et l'organique. Ce n'est pas la mesure quantitative des réactions des nerfs qui peut permettre de dire qu'on a une union de l'âme et du corps et qui peut permettre d'imaginer une vie éternelle pour l'homme grâce à des machines neuronales qui compléteraient, etc., etc. Ni les neurosciences. Et nous sommes ici dans toute une philosophie qui est basée sur les sciences, qui vient trouver encore un creuset philosophique de quelqu'un qui est cependant à l'opposé, à l'écart des sciences. Bergson n'est pas du tout un positiviste, mais il y a pour Maritain la même erreur, on va dire, de parallaxe. L'erreur de parallaxe, hein, vous savez ce que c'est quand vous avez un bâton, mettons, dans un verre d'eau et vous voyez... Vous ne le voyez pas droit parce qu'il y a une erreur de parallaxe ou vous voyez deux parallèles qui ne sont pas tout à fait à côté parce qu'il y a une perspective, elles ne sont pas parallèles. Donc c'est ça, c'est une erreur que Maritain va analyser. Et comment l'analyse-t-il? Eh bien, il dit que pour Bergson, il y a une façon de voir le cerveau très limitée. La première, c'est que le cerveau ne sert qu'à transmettre et à diviser du mouvement. Le rôle du cerveau consisterait uniquement à préparer des gestes, des attitudes, des mouvements, à monter des mécanismes moteurs en nombre indéfini. Bref, pour Maritain, Bergson voit le cerveau comme une machine à transformer le mouvement, rien de plus. Une autre critique. Tandis que les scolastiques reconnaissent l'existence de deux mémoires distinctes, la mémoire du concret sensible, c'est le sens interne, dont l'organe est dans le cerveau, et la mémoire intellectuelle, qui ne fait qu'un avec l'intelligence, pour Bergson, il n'y a qu'une mémoire, laquelle n'a pas d'organe, et n'est autre que l'âme ou l'esprit. Car l'esprit, écrit Maritain dans L'Homme, chapitre 10 de la philosophie bergsonienne, ne devient pour Bergson ce qu'il est que par la mémoire, laquelle, en même temps, loin d'être l'intelligence, ne s'actualise et ne se manifeste que par des images sensibles. C'est ainsi la mémoire du concret sensible qui est regardée comme spirituelle. Maritain écrit « Loin donc que les souvenirs soient déposés dans les centres cérébraux comme dans une boîte, Monsieur Bergson impute cette théorie matérialiste à tous ses adversaires. Il n'existe que dans l'esprit, à titre de souvenir pur. Troisième limite, c'est là le dogme fondamental de la philosophie bergsonienne. Le passé comme tel se conserve. Ce passé, écrit Maritain, qui se conserve et qui grossit en avançant, c'est notre mémoire elle-même ou notre âme. Et les souvenirs purs sont les éléments de ce passé qui demeurent toujours, qui sont là, bien que passés. qu'en est-il du corps? Le corps, dans cette vision bergsonienne, pour Maritain, sert non pas à sentir, mais à sélectionner des sensations déjà faites, déjà virtuellement données dans l'océan de conscience endormie où nous et toutes choses baignons. Le corps joue par là un rôle nécessaire, mais occasionnel et extrinsèque dans la connaissance sensible. Il n'a dans l'acte de connaissance sensible aucune part intrinsèque essentielle. C'est grave pour Maritain, parce qu'il ne peut plus y avoir de métaphysique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de confusion qui vient de ce passé permanent qui s'autogénère de manière, on va dire, vitale, avec cet élan vital. Et la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de perception externe réellement. Maritain décrit cela dans le chapitre 10 de l'Homme. Si la perception sensible nous fait communiquer réellement avec le monde, c'est que, dans ce que M. Bergson appelle la perception pure, le sujet et l'objet ne sont pas encore séparés. D'où il suit que l'esprit de chacun de nous, dans cette perception pure, n'est pas encore distingué de cette espèce de subconscience universelle qui est la matière, laquelle n'est qu'une retombée de l'élan vital, une dégradation de psychique. Elle n'est que du psychique inverti, pour reprendre les mots mêmes de Bergson dans l'évolution créatrice. Impossible de donner une autre interprétation de la théorie bergsonienne qui définit les choses matérielles comme des images présentes, des représentations virtuelles qui se neutralisent les unes les autres dans l'interaction universelle, en sorte que c'est bien dans les choses et non pas ailleurs que l'image des choses est formée et perçue, en sorte que notre perception est en dehors de notre corps et qu'il n'y a nulle part en nous de centre ou d'organe de sensation. Nous reviendrons donc sur la place du corps la prochaine fois, mais dans la philosophie scolastique telle que la présente Maritain dans le chapitre 10, l'homme de la philosophie bergsonienne.